Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Bonjour Élie Cohen.
Bonjour.
Bienvenue, directeur de recherche au CNRS, auteur de Souveraineté industrielle vers un nouveau modèle productif chez Odile Jacob. Jean-Marc Daniel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'ESCP, vous êtes également l'auteur de Redécouvrir les physiocrates pour une idéologie libérale.
Une écologie libérale.
Je vais peut-être apprendre à lire, ça ira mieux. Hein.
Une idéologie libérale, évidemment.
Oui.
Une écologie libérale.
Plaidoyer pour une économie intégrant l'impératif écologique chez Odile Jacob. Vous êtes membre du comité éditorial de Pour l'écho, on va voir la une de Pour l'écho qui devrait s'afficher et qui est consacrée ce mois-ci au risque ou pas de récession. Va-t-on vers une récession avec normalement un point d'interrogation? On ne la voit pas, la une de Pour l'écho, on la verra sans doute tout à l'heure après la pause. Gilles Raveau, bienvenue.
Bonjour Nicolas Dos.
Maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Paris 8 Saint-Denis. Vous avez publié Économie, on n'a pas tout essayé. Ça a été publié au Seuil. Quand vous entendez parler, Élie Cohen, de risque de délocalisation énergétique, est-ce que vous le prenez au sérieux?
Ah oui, tout à fait. Je veux dire, le hiatus qui est en train de se creuser entre les prix de l'énergie aux États-Unis pour les usages industriels notamment et les prix de l'énergie en Europe est tel que pour ce que j'appellerais toutes les industries électro-intensives ou énergo-intensives, la question de la délocalisation va se poser véritablement. Ce qui est très frappant, c'est que les prix de l'énergie sont plus bas à la fois aux États-Unis et en Chine. Les prix de l'énergie sont très élevés en Europe. Donc, vous pouvez prendre les différentes industries européennes l'une après l'autre en fonction de la part de l'énergie dans leur cours. Eh bien, il sera judicieux d'aller s'investir plutôt en Asie ou plutôt aux États-Unis. Donc, après avoir connu les délocalisations liées au différentiel de coût du travail, les délocalisations liées au différentiel de charges fiscales, on peut connaître des délocalisations liées au coût énergétique. Vous savez, la meilleure preuve, si vous voulez, c'est que pendant longtemps, on a fondé l'avantage compétitif de certaines régions françaises, notamment le nord de la France, grâce à un prix de l'énergie particulièrement bas, qui a permis d'attirer les usines des électro-intensifs. Souvenez-vous même qu'on avait fait un partenariat pour faire installer des centrales nucléaires dans le nord de la France pour garantir des prix de l'énergie systématiquement bas à des usines d'aluminium, par exemple. Et ça a été le critère essentiel de localisation de ces unités. Donc, à la fois dans le nord de la France, dans la région Rhône-Alpes, on avait également mis des conditions favorables à l'installation de l'industrie chimique. Et dans le nord, c'était la métallurgie. Si ces conditions disparaissent, on peut imaginer effectivement des localisations basées sur le différentiel énergétique. Et c'est tellement vrai que certains États américains viennent ouvertement draguer des industriels allemands et européens pour leur dire « Venez vous installer chez nous, vous bénéficierez et de prix de l'énergie bas et d'une très bonne visibilité sur vos coûts sur notre territoire. » Donc après avoir connu les deux premières vagues de délocalisation, on peut en connaître une troisième.
Et visiblement, vous me décrivez ça comme quelque chose qui est solide, durable et structurel.
La différence entre l'Europe et les États-Unis en matière énergétique, c'est que les États-Unis sont devenus les premiers producteurs de matières fossiles, de pétrole, de gaz, et que l'Europe voit sa dépendance non seulement aggravée, mais en plus sursignifiée avec la politique de la Russie vis-à-vis de l'Europe et notamment de l'Allemagne.
Il faut s'inquiéter, Jean-Marc Daniel, d'un nouveau mouvement de délocalisation industrielle?
C'est-à-dire qu'effectivement, le coût de l'énergie est un facteur essentiel et je suis assez d'accord avec Élie Cohen sur le fait qu'on a beaucoup parlé du coût du travail alors que le coût de l'énergie est un élément clé.
Mais d'ailleurs, problématique il y a encore pas tellement longtemps.
Oui, d'ailleurs, les physiocrates, pour faire de la pub pour mon livre, physiocrates, ce qu'ils mettaient en avant, c'est la nature. Et la nature, pour eux, c'était l'énergie. Et donc, ils magnifiaient le soleil, parce que le soleil, c'était la source de l'énergie. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'il est durable qu'il y ait un tel différentiel entre le prix de l'énergie en Europe et aux États-Unis, puisque, à un moment donné, on mettait en avant le fait que, grâce au nucléaire, la France avait l'électricité la moins chère d'Europe, voire du monde. Et donc, il y a des choix technologiques à faire, il y a des capacités à installer pour produire de l'énergie. Concernant
quand on sait qu'il faut 15 ans pour ressusciter un appareil nucléaire vraiment efficace, 15 ans, c'est long pour une industrie.
Oui, mais quand vous regardez sur le temps relativement long, les 6 pays qui ont fait la course en tête depuis la fin du 19e siècle dans la croissance, qui sont les pays du G7, grosso modo, si on enlève le Canada, il y en avait historiquement 3 qui avaient du charbon et 3 qui n'avaient pas de charbon. Il y avait les États-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne qui avaient du charbon, il y avait le Japon, l'Italie et la France qui n'avaient pas de charbon. Et pourtant, ces pays ont connu des niveaux de croissance assez similaires. Ils ont fini par arriver à peu près au même stade.
Il n'y avait pas le souci climatique à l'époque.
Non, il n'y avait pas de souci climatique.
Et le charbon, c'est pas cher.
Mais là, on parle d'énergie. Donc, il y en avait qui avaient de l'énergie domestique, de l'énergie nationale, l'énergie intérieure. Il y en avait d'autres qui étaient obligés d'importer leur énergie. Et donc, ils ont fait ce qu'on disait dans les années 70. Si on n'a pas de pétrole, on va avoir des idées. Ce qui m'inquiète le plus dans ce qui se passe à l'heure actuelle en France et en Europe, c'est que on voit bien qu'on n'a pas de pétrole, mais on n'a pas non plus d'idées. On n'innove pas assez, on n'est pas sur des secteurs, sur des secteurs qui pourraient effectivement...
Ah non, on avait pensé longtemps en France que le nucléaire était la solution. Et il y avait eu un formidable consensus national pour pousser la solution du nucléaire. Le drame français, c'est qu'il y a eu une rupture du consensus national sur le nucléaire et qu'à partir, je dirais, de la fin des années 80, les socialistes se sont vraiment ralliés à un modèle énergétique qui faisait une part minoritaire au nucléaire, le fameux 50-50 qui a été poussé par Hollande à la suite du compromis passé avec les écologistes. L'idée que le socialisme allait se rénover en intégrant une dimension écologiste et que pour cela, il fallait passer un accord politique avec l'écologie politique qui, elle, avait comme caractère essentiel d'être anti-nucléaire et non pas anti-réchauffement climatique, ce sont ces évolutions politiques majeures qui ont fait que nous avons renoncé à notre avantage et que nous avons défait de notre main cet avantage initial. Je veux dire, la décision qui consistait à dire le 50-50, l'idée même que on pouvait avoir une solution tout renouvelable, la négation même de l'idée que en matière de marché électrique vous avez besoin d'une base continue, régulière. Je veux dire, la conversion de la gauche à l'idée anti-nucléaire a produit des effets durables
dans et désastreux.
Et désastreux.
Mais on en est là aujourd'hui.
Je suis content d'entendre les collègues dire que
l'alliance
écolo-socialo a eu des résultats désastreux.
Ouais. Enfin, là, on parle aussi d'un phénomène européen et pas simplement d'un phénomène français.
Enfin,
Gilles, quel est le niveau de gravité que vous mettez derrière la situation qu'on décrit, qui est peut-être une situation structurelle et finalement un nouvel appauvrissement de l'Europe au profit des deux grands ensembles qui sont l'Amérique du Nord et la Chine de l'autre côté?
Alors je vais vous répondre, Nicolas, mais je peux pas m'empêcher de commencer par une petite blague.
Vous êtes obligé. Allez-y.
Je suis quand même content qu'on commence par charger la gauche, même si effectivement ce choix était désastreux, puisqu'on sait que depuis 1945, c'est effectivement la gauche qui a été très majoritairement au pouvoir dans notre pays, et que donc effectivement, je pense qu'on peut
On peut nuire en
Jean-Marc, je vous ai laissé parler tous les deux, c'est pas possible ça. Après, ce que montre la situation actuelle, qui est là effectivement, on est qu'au début de quelque chose qui va arriver, mais qui va arriver de plus en plus vite, c'est ce dont je parle à chaque fois, c'est la contrainte naturelle. C'est la contrainte naturelle, c'est-à-dire qu'au-delà des éléments géopolitiques, effectivement, la question énergétique est majeure. Moi, la question énergétique, elle était totalement absente de mon cursus d'étudiant d'économie. Je serais curieux de voir la place que prennent des cours sérieux sur les sources d'énergie, sur leurs différents coûts, leur organisation, la structuration de l'industrie, dans la formation de nos dirigeants actuels, de nos ingénieurs, de nos cadres, aussi bien dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs, que dans les facultés d'économie. Et ce qui se passe aujourd'hui avec l'énergie va se passer demain, et a en fait déjà commencé, et y compris dans notre pays, avec les ressources naturelles, avec l'eau. Et donc, ce que je dis à chaque fois, c'est que ce qui m'empêche légèrement de dormir, c'est qu'il y a une inertie de nos schémas de pensée, vous l'avez très bien dit tous les deux, on a débattu pendant des années du coût du travail, et je ne dis pas que ce n'était pas une question, mais on a complètement, tous, collectivement, complètement négligé la contrainte naturelle, et effectivement, moi je réfute ce discours de dire que les énergies renouvelables, ça serait chouette, que l'écologie, c'est une catastrophe qui nous tombe dessus, et nous ne sommes qu'au début. Mais ce n'est pas une catastrophe à cause des politiques écologiques, c'est une contrainte qui est monstrueuse, et pour laquelle, effectivement, contrairement à ce que voudrait bien croire Jean-Marc Daniel, il n'y a pas de substitut. La contrainte naturelle, elle est absolue, et effectivement, ça bouleverse tous nos schémas de pensée. Et ce que j'aimerais bien, c'est qu'on a quand même eu le Covid, On a maintenant la guerre en Ukraine. On voit bien que nos schémas de pensée sont à bout de souffle par rapport à ça. Et j'aimerais bien que, modestement tous, on intègre ce qui va arriver très très vite pour tous nos systèmes productifs. C'est toute la question de la production qui se pose. Et il faut la penser, je suis désolé, il faut intégrer cette contrainte naturelle sur les matières premières, sur l'énergie, qui est là et qui va être de plus en plus mordante.
On n'y est pas, selon vous. En tout cas, les phénomènes de délocalisation peuvent être beaucoup plus rapides que la capacité à intégrer dans nos schémas de pensée la contrainte naturelle.
Non, mais autant on peut être d'accord avec ce discours, autant on peut quand même essayer d'identifier des responsabilités politiques. Nous avons quand même des politiques qui sont là pour baliser l'avenir, pour prendre des engagements et pour mettre en œuvre les politiques qui nous permettent d'atteindre ces objectifs. Or, je veux dire, il y a à peine 2 ans, c'était Madame Pompili qui disait qu'en matière d'énergie électrique, on pouvait avoir des solutions 100% renouvelables et qu'il fallait travailler à mettre en place des solutions 100% renouvelables. Je crois qu'il y a moins d'un an que le gouvernement Macron a décidé de fermer Fessenheim, alors même que l'ASN a dit qu'il n'y avait pas de problème avec Fessenheim et que les investissements de mise à niveau avaient été mis en place. Si vous voulez, lorsque pour des raisons purement politiques,
oui, je vois ce que vous voulez dire,
on met en cause un avantage qui a été constitué sur la longue durée, que donc, si vous voulez, on se déséquipe soi-même, ça, j'avoue que j'ai du mal à le comprendre. Et donc, du coup, effectivement, l'espèce de séance de rattrapage actuelle qui consiste à dire « Mais nous avons fait le choix de lancer bientôt 6 centrales EPR2 et derrière, il y aura 8 centrales », comme vous l'avez excellemment dit, ce type de décision, s'il venait à être confirmé et mis en œuvre, ne produirait des résultats que dans 15 ans. Donc, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que cette politique de gribouille où on passe son temps à rattraper les erreurs qu'on a soi-même commises à partir d'une situation qui était plus favorable que celle d'aujourd'hui ? Là, quand même, ça interroge.
Et de votre point de vue, Eli Cohen, est-ce qu'actuellement, ce que fait Joe Biden avec son Inflation Reduction Act, c'est vraiment l'estocade dans le déclin de l'Europe, en fait ?
Alors, si vous voulez, ce que
Parce
fait...
On est en droit de se poser la
ce
question.
Ce que fait Joe Biden, on va en parler, mais il y a 2 aspects. Il y a un aspect de rééquipement du territoire, de correction, de décennies d'abandon des infrastructures publiques, etc., qui est très, très bienvenu. Le problème, c'est qu'en même temps, il agite le Buy American Act, là qui est un acte véritablement protectionniste, pour dire, eh bien, les investissements que nous sommes en train de faire chez nous, notamment pour la relocalisation des industries qui sont parties, donc pour faire de l'industrie sur notre sol, eh bien, il ne faut pas que nos concurrents puissent en profiter. Et donc, il crée cette relation très dissymétrique entre l'Europe et les États-Unis, puisque lui, il fait son Buy American Act, et nous n'avons pas de Buy European Act. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Il charge la barque financière aux États-Unis pour aider sa propre industrie et pour aider ses propres salariés, et nous nous démunissons là volontairement d'une riposte possible, puisque nous n'avons pas l'équivalent de son arme de protection. Alors, je sais bien, c'est toujours avantageux dans le monde du libre-échange de profiter des turpitudes des autres, et nous avons intérêt à être libre-échangistes pour deux parce qu'on nous y gagnons toujours. Sauf que là, en matière de marché public en particulier, et en matière de modification des avantages naturels des États-Unis grâce à des politiques de subvention, vous savez, les dizaines de milliards d'euros qu'il va mettre en place pour localiser sur son territoire les nouvelles usines de composants électroniques, ces usines de composants électroniques, à qui vont-elles profiter et qui est obligé de faire une course aux subventions pour, à son tour, attirer sur son sol des usines du composant électronique. Vous voyez, il y a une espèce de dynamique qui se met en place, et je crains que quand on fait le bilan de l'œuvre de Biden, on confonde ce qui est bienvenu, c'est-à-dire la correction du délabrement de ces infrastructures publiques, avec ce qui est moins bienvenu, cette protection après subvention.
Vous condamnez le protectionnisme américain, Jean-Marc Daniel, Gilles Raveau ? Moi, est vraiment devant, là, un acte protectionniste assumé.
Oui, c'est un acte protectionniste assumé. Ce qui est intéressant, c'est que pour le Parti démocrate, c'est nouveau. C'est-à-dire, le Parti démocrate, historiquement, c'était les 3 R qu'on disait. C'était Rome, c'est-à-dire c'était les catholiques et les présidents démocrates. Il y avait des catholiques. Les 2 catholiques qui ont été élus aux États-Unis sont des démocrates. C'était le Rome, c'est-à-dire ils acceptaient la consommation d'alcool et ils refusaient la politique de prohibition et la politique d'ordre moral. Et puis c'était les rebelles, c'est-à-dire les rebelles, c'était le Sud. Et le Sud, la caractéristique du Sud, c'est qu'ils étaient pas pour l'esclavagisme, ils étaient pour le libre-échange. C'était l'idéologie libre-échangiste du Sud. Bon, là, ils sont en train de basculer complètement. Et donc,
Obama avait déjà fait des actes protectionnistes.
Hein. Oui, mais enfin, oui. Obama, il avait quand même ouvert, la négociation avec les pays pour le partenariat transpacifique. Il avait relancé le partenariat transatlantique qui avait été mis en place par Clinton. Donc, il était un peu au moment de la mutation entre ces. Bon. Ce que je constate quand même, c'est que le bilan de tout ça, c'est que les États-Unis ont un déficit de leur balance des paiements courants qui est colossal, 900 milliards de dollars. 900 milliards de dollars, ça veut dire que ils vont chez quelqu'un, ces 900 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'effectivement, ils protègent leurs industries, ils protègent leurs entreprises, mais au final, ils déversent de la demande sur l'économie mondiale.
Bah, ils voulaient effacer le déficit avec la Chine, et ils voient que non seulement ce déficit ne disparaît pas, mais qu'il augmente.
Il n'y arrive pas. Et donc, effectivement, je pense que leur politique, alors, on a parlé de politique de gribouille pour les Français, ça c'est vrai, mais là aussi, on est dans une politique de gribouille, c'est-à-dire, on injecte en permanence de la demande, on injecte en permanence du déficit budgétaire, et ça se traduit par du déficit commercial. Et donc, d'une certaine façon, ils sont à la fois protectionnistes dans leurs paroles, dans leur pensée, dans leur volonté, et comme ils le mettent en œuvre maladroitement, ils finissent par donner à l'économie mondiale des moyens d'effectivement de trouver des débouchés.
Gilles, on est les Européens, on est les losers dans l'histoire. Là. J'ai un peu l'impression qu'on est les losers de l'histoire.
Mais non, mais c'est terrible pour moi, parce que moi j'avais l'habitude de critiquer, si vous voulez, la construction économique européenne sur des bases sociales et aussi démocratiques. Et en fait, aujourd'hui, c'est même plus drôle parce que l'échec pour cette construction européenne qui, dans la réalité, n'est la seule réalité de la construction européenne, c'est l'économie. Et sur le plan économique, effectivement, c'est un désastre maintenant total. Donc, c'est même plus drôle de l'expliquer. Juste pour l'histoire, c'est quand même... On peut peut-être rappeler... quelles sont les politiques européennes qui ont fonctionné économiques? Le plus grand succès, en termes objectifs, si on compare les objectifs d'une politique à ce qu'elle a réussi à faire, c'est la politique agricole commune. La politique agricole commune, surtout dans ses débuts, dans les années 50-60, a extrêmement bien marché, mais à la surprise de tout le monde, puisque l'Europe, qui était en dépendance alimentaire, qui n'avait pas de souveraineté alimentaire, c'était la raison de la création de la politique agricole commune, l'est devenue en quelques années. Qu'est-ce que c'était cette politique? C'était une politique interventionniste, prix fixé, protectionniste, évidemment. Qu'est-ce que c'est que Airbus? Alors Airbus, ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. Comment est-ce qu'on a fait Airbus? Avec des subventions publiques massives. C'est évidemment une forme de protectionnisme. Vous ne pouvez pas créer Airbus si vous laissez la libre concurrence alors qu'il y a Boeing qui existe. C'est matériellement impossible. Donc, ce que montrent tous les travaux d'histoire économique, ce que montre l'extraordinaire essor de la Chine, dont je ne comprends pas du tout que autant dirigeants d'économistes n'aient toujours pas compris ce qu'était la Chine, alors que c'est quand même assez facile à comprendre, la réussite de la Corée du Sud, de Taïwan, etc., qui justement contraste avec l'échec du continent africain jusqu'à récemment ou des pays d'Amérique latine, c'est que justement, tous ces pays ont tous mis en place des politiques extrêmement protectionnistes, même de vol de propriété industrielle quasiment sans cacher, avec une politique extrêmement agressive à l'exportation, avec des subventions à leurs champions nationaux. C'est-à-dire que ce sont des pays qui ont su utiliser la mondialisation de façon parfaitement stratégique, en se protégeant totalement, en prenant ce qu'ils voulaient, et effectivement en conquérant de façon extrêmement efficace, comme on le sait, les marchés internationaux. C'est aussi ce qu'a fait le Japon. Bon, l'histoire montre que, évidemment, l'Allemagne, tout le monde le sait, c'est industrialisé grâce au protectionnisme, le nord des États-Unis s'est industrialisé grâce au protectionnisme, le Royaume-Uni, en fait absolument tout le monde. Et donc non seulement cette question pour moi elle est quand même largement réglée si on regarde les faits, mais ce que là aussi il y a une naïveté européenne mais qui devient vraiment, vraiment sidérante, c'est qu'aussi bien, qu'est-ce qui se passe aussi bien en Chine qu'aux États-Unis depuis des années maintenant, vous l'avez très bien dit Jean-Marc Daniel, c'est que maintenant les dirigeants revendiquent le fait d'être nationalistes. C'était le slogan de Donald Trump, c'est « Make America Great Again », le slogan de Ronald Reagan. Les Chinois, que sont les Chinois, que font les Chinois? Les Chinois ont été humiliés par les traités inégaux imposés par les Occidentaux au milieu du 19e siècle. Les Chinois veulent prendre leur revanche et ils ont une stratégie de conquête, de revanche totale, qui est complètement assumée, qui est explicite, qui est publique. Et nous sommes englués dans une espèce de conte de fées économique basé sur le libre-échange qui n'a jamais correspondu à la réalité. Et on en est quand même à la situation, juste pour terminer, c'est Carlos Tavares, un des plus grands dirigeants d'entreprises automobiles du monde, qui nous dit qu'on a tellement de retard sur les constructeurs chinois qui voudraient avoir justement des droits de douane du protectionnisme européen pendant 10 ans.
Très bonne question pour poursuivre, notamment après une décision récente de Berlin. On est d'accord que l'économie, c'est pas la Bible. Les premiers sont les premiers, c'est certain. Et les premiers sont-ils des protectionnistes? Ça, on peut poser la question dans ces termes-là après la démonstration que vous venez de faire, Gilles.